Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Irma Pani, plus connue sous le nom d'artiste Irma. Si le nom Irma ne vous dit rien, peut-être que ce petit air vous rappellera à son bon souvenir. Après avoir commencé à chanter sur YouTube depuis sa chambre, connu un immense succès international entre 2008 et 2015, Irma est retournée dans l'ombre ces 3 dernières années pour se ressourcer, réapprendre à s'émerveiller de la chanson et sortir un nouvel album qui sortira le 14 février 2020. Un opus qu'elle a construit toute seule d'ailleurs en autoproduction, même si elle préfère se définir aujourd'hui comme artiste entrepreneuse. On évoque ensemble son parcours, depuis ses morceaux inventés à l'âge de 8 ans, qu'elle chantait à sa sœur jumelle, en passant par le succès de son premier album crowdfundé avec My Major Company en 2008, puis la fabuleuse histoire de cette pub Google qui la propulsera vers un label américain avant qu'elle décide tout simplement de tout plaquer pour mieux revenir aujourd'hui après avoir pris des cours de chant, voilà, parce qu'elle est comme ça, Irma, elle prend des cours de chant après avoir sorti 2 albums. J'espère que cet entretien vous plaira, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire du succès, mais d'ici là, abonnez-vous, mettez une bonne note et un bon commentaire, et je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Irma. On est avec Irma ?
Ouais, putain !
Ça va ?
Ça va et toi ? Putain, non mais il faut que j'arrête de dire des gros mots.
Ça fait tellement longtemps... Non. Sauf si tu veux sauvegarder ton image d'artiste proprette.
Oh, écoute. Tu sais, maintenant, je suis une junkie. Hein, tout le monde le sait, toute la France le sait.
Pourquoi ?
Je peux dire des mots tels putain, diantre, des trucs comme ça. Néanmoins, tout ça. Tout ça, ça passe dans mon vocabulaire maintenant.
Irma, t'es...
T'arrives même pas à être sérieux ? Ça va rien donner, ce truc.
Mais si, bien sûr que si. Ok. Irma, merci beaucoup d'être là parce que ça fait environ un an que je te cours après pour qu'on fasse cette interview sur, dans mon podcast, si tu veux, avant même que le podcast existe.
C'est vrai en plus.
Et
c'est
tu
vrai.
M'as dit, ouais, on le fera quand mon album il sort. Et l'album, il met du temps à sortir, qu'est-ce qui se passe ?
Il sortira jamais, Fabrice.
C'est vrai.
Non, je rigole. Il va sortir. Mais en fait, c'est les joies de l'autoprod. Voilà. Tu commences à croire que ça va sortir et en fait, les choses se mettent pas en place comme tu veux. Et en fait, j'ai mis du temps à trouver l'équipe qui allait m'aider à défendre l'album, tu vois, les attachés presse et tout ça. Mm-hmm. Et tu vois, aujourd'hui, je suis ma propre patronne. Donc, pour moi, c'est compliqué. En fait, cet album, il c'est pas juste un album. Je lance aussi mon business, en fait, avec cet album. Et c'est pour ça que ça met un peu de temps, mais okay. Tu vois. Ce sera bien quand même.
Non, mais je t'ai vu, là, tu commençais à batifoler avec d'autres médias, etc. Je me suis dit, ça y est, la meuf, alors que ça fait un an que je lui cours après, elle va...
Elle me snob. Tu t'es dit,
oui,
je te snob.
Voilà.
Mais c'est faux. C'est toi, j'ai attendu tes textos, tu m'as ghosté. Donc, c'est ton problème, en fait. C'est toi qui décides, hein, c'est toi qui fais tes choix.
Mais tu t'arriveras jamais à faire carrière avec une mauvaise foi pareille, sache-le. En plus, avec les médias qui veulent t'aider, c'est pas possible.
Oh, c'est vrai.
Irma, le grand public te connaît parce que t'as été... t'as sorti un titre ou deux qui résonnent encore aujourd'hui dans les oreilles, hein, notamment I Know, n'est-ce pas, qui est vraiment...
C'est vrai.
Il y a 10 piges.
C'est vrai, putain.
C'est ça, non ?
C'était il y a 10 piges.
Ouais.
Ouais. C'est sorti en 2008. Il y a 10 piges.
Tu fais partie de cette première génération d'artistes qui a été découvert par Internet. À l'époque, tu avais fait ça avec My Major. Tu faisais partie d'un pool d'artistes qui s'était fait découvrir grâce à Internet, grâce au crowdfunding à l'époque, qui était vraiment le tout nouveau truc qui sortait, quoi. On va parler un peu après de ta carrière et aujourd'hui de ton retour, parce que ça fait un petit moment que... Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. On va le savoir.
On va le savoir. Ça va savoir.
Ça va savoir juste après, rester avec nous. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu à quoi ressemblait Irma quand tu avais 7-8 ans, quoi.
Quand j'avais 7-8 ans.
Ouais. C'est une petite fille.
J'étais une petite fille très nerveuse. Je tremblais, j'avais la tremblotte tout le temps. D'ailleurs, c'est un peu resté, mais ça
mais
part.
La tremblotte, vraiment?
À la tremblotte, vraiment. J'ai un truc de panique, de le monde extérieur m'agresse depuis que je suis toute petite.
Oh, c'est chaud.
Et c'est chiant. C'est chiant. Parce que ça m'a amené à être très solitaire. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai cette carrière-là aujourd'hui. Tu vois, au-delà du fait que c'est ma passion, la musique, ça reste une vie très, très solitaire. J'ai bossé avec une réalisatrice récemment qui s'appelle Nathalie Séjean, qui m'a suivie, tu vois, en tournée, etc. Et qui m'a dit, en fait, je réalise que 90% du temps, t'es seule. Je lui ai dit, bah oui. Bien vu, Sherlock. Et bref, tout ça pour dire que j'étais... Après, j'ai...
Mais t'es seule aujourd'hui parce que tu t'autoproduis, mais je pense qu'à l'époque où t'étais sous un label, etc., t'avais un entourage, n'est-ce pas?
Bah, tu sais, t'as un entourage, mais qui est pas dans ta... C'est un entourage de façade, en fait, oui. Si tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont là, évidemment, mais... Quand tu finis les concerts, c'est pas le, tu vois le film glamour des stars de rock'n'roll qui finissent les concerts en gros stuff. Enfin, quand tu finis le concert, tu rentres seul dans ta chambre d'hôtel, par exemple, tu vois.
C'est par exemple, c'est ce cliché-là de l'artiste seul après avoir pris un immense kiff devant 1000
ou
2000 personnes.
Ah oui, vraiment. Cliché, mais vrai, vrai de ouf.
Donc en fait, tu redescends toute seule comme ça. Ouais. Après avoir pris, enfin j'imagine là tu prends de l'endorphine à fond là, la caisse quoi. Devant...
Déjà tu dors pas, enfin tu dors pas avant 5h du matin parce que t'es comme ça, les yeux ouverts comme ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est trop d'énergie, il faut que ça circule. Et je sais pas pourquoi on parlait de ça. Non, on parlait de quand j'avais 7 ans.
Tu parlais du fait que t'étais solitaire.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah, mais j'aime bien digresser, tu sais. Oui, je te laisse aller là
aussi,
où tu veux,
t'inquiète
aussi, pas, je te rattraperai à un moment donné.
C'est fou parce qu'en plus il y a 10 ans justement quand on posait des questions, je répondais vraiment par oui, non. Oui. Et maintenant,
qu'est-ce
il faut me couper au montage. Bah, je sais pas, je crois que je me suis libérée d'une pudeur que j'avais, qui était aussi imposée par la culture, par mon éducation, par beaucoup de choses. Et puis, bon, bah, quand t'es une femme, ton avis et ce que tu racontes, finalement, a peu d'importance. Ou en tout cas, tu es amenée à penser ça et toi-même, tu l'intègres, en fait. Et j'avoue que, ouais, au fur et à mesure des années, je me suis dit, bon, écoute. D'ailleurs, c'était à tel point que j'aimais pas m'entendre parler. Je détestais m'entendre parler.
Quand tu faisais de la promo, tu veux dire?
Quand je faisais de la promo, je regardais jamais les promos que je faisais parce que j'aimais pas me voir parler, j'aimais pas me voir dire des trucs.
Et ça va mieux aujourd'hui?
Ah ouais, okay. Vraiment. Aujourd'hui, je suis là où il bat les couilles. Très vulgaire. Hein.
Tu vas nous... non, très vulgaire. Tu vas nous expliquer. Pardon. Tu vas nous expliquer un peu comment t'as fait ça, mais en fait, à quel moment, alors. Comment ça se passe en fait ton arrivée vers la musique? Parce que tu fais du piano, c'est ça, quand t'es petite,
oui.
Déjà à l'époque. Donc t'as quand même une éducation
à la
musique.
À la musique, ouais. Quand j'ai commencé le piano classique en plus quand j'avais 7 ans. Et j'avais un professeur de piano, une russe, qui s'était exilée au Cameroun parce qu'elle avait suivi son mari camerounais, évidemment, qui l'a larguée, évidemment, quand elle est arrivée au Cameroun. Donc elle s'est retrouvée à Douala et donnait des cours de piano à des enfants camerounais, quoi. Et j'ai pris des cours avec elle pendant de mes 7 ans à mes 15 ans. Et donc ma formation de piano classique, ça a été vraiment la base de ma formation musicale. Mais très vite, j'ai eu envie de me libérer un peu de ce que le classique, la formation classique, c'est un peu...
C'est
les règles, quoi. Exactement. Et par contre, je sais que ça m'a donné la... Comment dire ? Ça m'a donné l'éthique de travail que j'ai aujourd'hui pour la musique qui n'est pas classique, tu vois. Et très vite, par contre, ouais, j'ai eu envie de me libérer de ça. Et donc, j'ai appris la guitare en autodidacte, mais avec ses bases de classique. Et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à composer mes premiers titres.
Tes parents sont pas du tout dans le game de...
Mais mon père est producteur pour One... Non, je rigole. Je rigole de ouf. Mes parents sont pas du tout dans le game. Mes parents sont... Mon père est pharmacien biologiste, ma mère est pharmacienne nutritionniste. C'est pas du tout le même univers, quoi.
Et alors, l'autre truc, je sais pas trop si tu t'en parles publiquement, mais t'as une sœur jumelle aussi.
Oui, j'ai une sœur jumelle qui est docteur en chimie. On peut l'appeler docteur in Espagne.
Ok.
On peut l'appeler docteur in Espagne, c'est ce que je fais quand je l'appelle docteur in Espagne. Vraiment, depuis qu'elle est docteur, c'est une fierté telle que je ne peux plus dissocier son prénom du terme docteur. Et. Et ça aussi, c'est fou. Parce que voilà, t'as quelqu'un que tu connais depuis que t'existes, en fait. Et c'est vraiment ma moitié. C'est pas le cliché de, tu sais.
Vous êtes vraies jumelles ?
On est fausses jumelles en plus.
Ok, d'accord.
Mais on a le même cerveau en fait, c'est fou. Et pourtant on est opposés, c'est-à-dire qu'elle est très introvertie, elle est docteur. Elle est docteur quand même.
Alors que toi t'es troubadour.
Alors que moi je suis troubadour dans les villages de France.
C'est saltimbanque. Ouais,
ouais, oh, saltimbanque. Super les gars. Donc non, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est très très différentes, mais on a vraiment le même cerveau, le même cœur, on vibre pour les mêmes choses, on pense les mêmes choses de tout.
Et ça fait quoi de grandir avec une sœur comme ça, qui a le même âge que toi et qui peut-être déjà à l'époque était complètement différente de toi, quoi. Est-ce que ça t'incite à te différencier aussi d'elle? Parce que je pense que c'est l'un des trucs qui est compliqué avec les jumeaux. Alors, j'en connais pas spécialement, mais en tout cas, j'ai toujours ce truc de... En fait, on se ressemble tellement qu'on a envie de pas se ressembler. Et en même temps, on a trop envie de se ressembler.
Je vois ce que tu veux dire. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai pas du tout eu ce problème avec elle. Parce que, problème ou pas d'ailleurs, mais j'ai pas eu cette construction-là avec elle parce qu'on ne se ressemblait pas du tout comme des jumelles. On se ressemblait comme des sœurs, évidemment, mais pas du tout comme des jumelles. Donc, il n'y a pas eu cette volonté de dissociation, de dire « je suis moi et elle est elle ». On a très vite été séparables et séparés. Et donc, il n'y avait pas cette volonté-là, tu vois, de me construire.
Et elle a suivi donc un peu le chemin de tes parents, plutôt vers une carrière scientifique,
ouais.
C'est ça ?
Ouais.
Et toi, à quel moment tu te dis « en fait, moi, la musique, c'est bien, et toutes leurs histoires de chimie, machin, là ?»
Ça ne m'intéresse point.
Bof.
Pourtant, c'était bien parti. Hein. J'ai fait un bac S, oui, machin.
Alors, on en reparlera un peu après, mais ouais. Tu as une éducation brillante.
Oui, j'ai fait une école, j'ai fait une prépa, une école de commerce.
Tu as eu un bac S, mention très bien, meuf.
Ouais, de ouf.
J'ai vu.
De ouf, t'as vu ou pas? C'est fou ou pas? On dirait pas comme ça quand on voit.
Oh, I know. Oh, oh, oh. Bac S, mention très bien, mon pote.
Il y a quoi, si. Je crois que j'ai eu un bac S mention très bien. J'ai eu cette mention-là juste pour foutre la rage aux profs et tout ça qui croyaient pas en moi.
Ah.
Tu vois, c'est à ce moment-là que je suis sortie de mes gonds. Je pense que là, c'est l'homme pâle qui dit ça. La rage est un moteur de... L'amour des alliés est un moteur de diesel et la jalousie est un moteur de...
Je sais pas.
La jalousie est un moteur de quoi? De jet. Enfin, je sais plus. Okay. Bref, un truc comme ça.
Mais c'était pas de la jalousie, là.
C'était pas du tout de la jalousie, mais tu vois, le côté un peu où... C'est vrai qu'on a besoin d'énergie positive pour faire le métier que je fais, mais on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a un côté où tout ce qui nous a été présenté comme nous étant impossible, etc., il y a un truc où c'est aussi une énergie. D'ailleurs, qu'on transcende et qu'on transforme en énergie positive. Et je sais que moi, j'ai été dans une éducation qui était très... Une éducation qui brime, quoi. C'était un lycée privé catho. Un truc où on te forme en te disant que tu es incapable, que tu... Enfin, tu vois, on te met volontairement des notes nulles pour te casser, et pour te... Tu vois ce que je veux dire? Et autant, pendant tout mon lycée, j'étais très moyenne, justement, parce que c'était hyper difficile. Tu vois, on était toujours traînés vers le bas. Autant au moment du bac, je pense qu'il y a eu un truc de « Eh oh, c'est quoi l'histoire ?» Et à tel point d'ailleurs que quand je suis allée voir les résultats du bac, tu sais, c'est affiché sur un tableau. Ouais. J'ai cru que je ne l'avais pas eu parce que je n'ai même pas pensé à regarder « mention très bien ». Parce que pour moi, c'était impossible. Et donc, j'ai regardé partout et à un moment donné, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit « j'ai pas mon bac
». Mais tu savais donc que tu avais réussi, c'est pas possible.
Mais
tu
non,
sais à peu
pour
près.
Te dire à quel point mon cerveau était... à quel point on peut te dire le fait qu'on te dise t'es nul peut te faire vraiment croire que t'es nul. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Vraiment, je te jure, je les ai appelés, j'ai dit j'ai pas mon bac. Improbable.
Il y a un truc qu'on a sauté aussi, c'est que si je me trompe pas, t'as fait ton lycée en France,
ouais,
c'est ça?
Ouais.
Et que donc t'as eu toute ton enfance au Cameroun. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu te dis ok, il faut aller à Paris? Comment ça se passe?
Alors, pour le coup, j'ai pas trop le choix. C'est mes parents qui décident. Eux, ils se sont rencontrés à Paris.
Okay.
Et leur rêve dans la vie, c'était nous, quand on aura des enfants, il faut qu'on ait les moyens de les envoyer à Paris faire des études brillantes, etc. Pour eux, le parcours académique, c'est tout.
Okay.
Et donc, ils ont eu ce truc. Et moi, j'admire beaucoup mes parents pour ça, parce qu'ils ont eu cette vision-là. Ils l'ont suivi jusqu'au bout, quoi. Ils se sont saignés pour nous payer des études brillantes, etc. Et c'est pour ça que je me retrouve à Paris, en fait. Mais je sais qu'au fond de moi, j'ai jamais pensé que je ferais un métier autre qu'un métier dans la musique.
Ah ouais?
Ouais, vraiment.
Depuis quand?
Depuis que j'ai 8 ans.
Ah ouais?
Ouais. depuis que j'ai 8 ans, je c'est fou d'ailleurs. Parce que tu sais, quand j'ai écrit I Know, donc j'avais 12 ans pour le coup, mais c'était un peu après.
Attends, je savais pas ça. T'avais 12 ans quand t'as écrit I Know?
Oui, j'avais... Rien que pour te montrer la force de la
mais
vision.
Tu dois en avoir tellement marre de cette chanson. À chaque fois qu'on se voit, je te la ressasse.
Non, mais tu sais que le pire, c'est que non. Parce que en vrai, je me dis, c'est une chance d'eau. Enfin, je le vis encore comme une chance qu'il y ait même une chanson, même si c'était une moitié de chanson, qui m'ait permise de me faire entendre, tu vois. Et en vrai, quand j'ai écrit cette chanson, je te jure, il y a des moments où je me retrouvais sur scène quand je la chantais devant des gens, où j'avais vécu ces moments. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'ai écrit la chanson, j'avais la vision de moi qui jouait sur scène
à 12 piges.
Et qui allait, je me disais, je ne savais même pas par où ça allait passer, comment ça allait passer. Parce qu'en plus, avec le fait où j'étais à Douala, tu vois, t'es quand même très coupé du monde, t'es quand même loin, quoi, tu vois. Mais il y avait ce truc où j'ai toujours eu la vision de cette chose-là. C'est fou.
Et qu'est-ce qui te permettait d'avoir cette vision-là, alors, depuis Douala? C'était fan de Michael Jackson.
Ouais.
T'as grandi quand même avec des figures.
Avec Britney. Bah oui, quand t'as grandi avec Britney, rien n'est impossible.
Ouais.
Non, il y avait même un truc où, pour moi, c'était pas question de possible, pas possible. C'est ce qu'on dit, et c'est ce que j'ai compris après, c'est que le plus dur, je pense, quand tu vieillis, quand tu grandis, c'est de garder tes rêves, ou en tout cas de les rendre, de pas te dire, de pas les ridiculiser, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que, à ce moment-là, en fait, juste, je rêvais, tout simplement. Mais j'ai transformé en vision, parce que plus tard, tu t'apprends des mots compliqués et t'apprends à mettre des mots sur des concepts que tu rationalisais pas avant, tu vois. Mais en fait, c'était juste ça, je rêvais, quoi. Je pense.
Ça, c'est ouf. Mais donc, ça veut dire que quand t'écris Aino, depuis que t'es toute gamine, en fait, tu te produis en spectacle pour ta famille, non?
Mais,
ou
ah
tu
oui.
restes dans ton
ah
coin?
Oui, oui, j'ai cru que t'allais dire tu te produis en spectacle sur scène. Ah non, pour ma famille, ils n'en pouvaient plus de moi. Attends, je t'explique. Je faisais des chorales où mes sœurs étaient choristes,
ouais.
Et je forçais ma famille à assister à mes spectacles, et j'apprenais des chorégraphies à mes sœurs. Elles n'en pouvaient plus. J'apprenais des chorégraphies, on faisait des spectacles. Et quand mes cousines venaient, c'était la même. J'embarquais mes cousines dans l'histoire et tout. Et j'ai toujours kiffé ça.
Et tes parents t'ont plutôt poussé dans ce truc-là, ou alors ils te disaient, oh, ça va, c'est un jeu de gamine?
Ils disaient pas non plus c'est un jeu de gamine, mais ils disaient pas grand-chose de plus. C'est-à-dire que pour eux, et puis je comprends, tu vois, c'est un milieu qui était... Je vois pas quel parent dit à son enfant, fais de la musique. Enfin, dans le sens où...
Bah, un peu maintenant, je
un
pense.
Un peu maintenant.
Tu vois.
Maintenant, on a compris.
C'était peut-être moins le cas il y a 20 piges.
Voilà, c'est vrai que j'ai l'âge que j'ai, 30.
Ouais, donc en fait, ouais. Il y a 20 ans, peut-être moins.
C'était un peu moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les gens voient avec Internet, les gens voient que c'est plus démocratique, c'est plus accessible, mais c'est vrai qu'à l'époque, évidemment, que je pense qu'aucun parent, sans dire c'est nul, n'y va pas, je pense qu'aucun parent n'encourage forcément son gosse dans cette voie-là, tu vois.
Il y a des vidéos
de moi enfant.
Quand t'as
alors, il n'y a pas de vidéo, mais... Et ça, je te le ramènerai. Non, je ne peux pas te l'offrir parce que c'est un cadeau horrible. Mais ma petite sœur avait fait un album avec mes chansons que j'avais enregistrées sur des cassettes, les cassettes là. Et elle avait fait on avait pris une photo qu'elle avait imprimée sur Word, tu sais. Elle avait fait une jaquette d'album et elle avait écrit Irma, l'album de tous ses tubes.
Ah,
et genre, je suis posée dans mon lit tranquillement. L'album de mon best-of.
T'as quel âge?
Et j'ai genre 12 ans, 13 ans. Et j'écrivais vraiment 5 chansons par jour. Ah non, mais c'était ouf cette période.
Mais tu les composais aussi alors?
Ouais, je les composais. J'écrivais. Après, tout n'était pas. Tout, on s'en fout, tu vois. Sur les 5, il y en avait 5 qui étaient nuls. Mais c'est vraiment ce côté de. J'avais cette urgence de. Tu vois, d'écrire, de faire de la musique, de composer. Vraiment.
Et tu parlais un peu de. En fait, de l'aspect dur au mal que t'as procuré, l'aspect, enfin, ta formation classique.
C'est
aussi.
Quoi dur au mal?
Ou en fait, c'est pas facile, quoi, tu vois.
Oui.
Et t'es persévérant et on t'oblige à te persévérer et en fait à refaire 42 000 fois,
c'est
etc. Il y a un épisode, j'ai eu une interview avec Yann Kojandi qui lui a fait du violon. Et il me racontait exactement ça, en fait. Tu vois, il me disait qu'en fait, le violon, alors pour le coup, je pense que c'est encore plus ingrat que
le piano. C'est horrible, ça doit être horrible, je pense.
Et que, en fait, il s'était mis à l'alto. Bah, je vous mettrai le lien parce que allez écouter cette interview, c'était il y a quelques années. Mais il raconte qu'en fait, il s'est mis à l'alto sans savoir ce que c'était un alto à l'époque.
C'est drôle, pourquoi il a fait ça?
Il pensait que c'était un autre.
C'est drôle.
Il pensait que c'était un autre instrument. Et en fait, il dit, il explique que justement cette formation-là, très très dure, l'a l'a fait rentrer dans une logique de travail qui est très un peu staccanoviste et un peu ok, en fait, faut que ce soit parfait, faut que ce soit, parce que le violon, si t'as un truc à côté, à droite, machin, ça sort
exactement.
Pas bien.
Exactement. Autant le piano, ça peut passer pour de l'improvisation un peu jazz. Un peu jazz free. Autant le violon, mon gars, les gens sortent de la pièce, c'est sûr.
En fait, c'est ça aussi qui te donne envie de... Enfin, c'est ce côté dur au mal, justement. J'aime bien cette expression.
C'est bien, en fait. Je suis contente d'avoir appris cette expression.
Qui te donne envie d'écrire à ce point-là.
Disons que c'est pas celle qui me donne envie d'écrire, mais c'est mon process de travail. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je m'en libère aujourd'hui, parce que j'ai ce truc... à un moment donné, le perfectionnisme, c'est plus du tout une qualité. C'est-à-dire que quand c'est jamais fini... et que tu n'arrives pas à finir parce que tu te dis que... Alors, en plus, tu te mets des standards qui n'existent que dans ta tête. C'est absurde, tu vois. Et je sais que... Oui.
Est-ce qu'on peut dire que ton album, tu es en train de le taffer depuis 3 piges?
C'est vrai. Mais alors, lui, il fallait, je pense. Okay. Parce que ça a nécessité tout un chamboulement dans ma manière de faire, dans mon approche de la musique, okay. dans mon apprentissage de la musique, qui, je pense, a nécessité ce temps-là. Maintenant, il est temps qu'il sorte, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il est fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il est fini. Mais je disais plus dans le côté... c'est vrai que je pense pas... Je réalise aujourd'hui qu'il faut pas forcément de la souffrance pour arriver à des choses bien. Par contre, je sais qu'il faut ce que les Américains ou les Anglais appellent assignment. Tu vois, le commit, que tu sois engagé dans un truc. Et je sais que c'est ce que m'a appris le piano classique, tu vois. Aujourd'hui, si j'ai pu être en studio et écouter pendant 4 heures le même son, taper pendant, enfin, toutes les 3 secondes sans devenir folle, c'est justement parce qu'il fallait pendant je sais pas combien de temps répéter cette même tu vois, mesure. Et je sais que voilà, moi je sais que c'est ça qui me rend heureuse, d'être vraiment à 5000% dans passionnée par ce que je suis en train de faire au moment où je le fais, tu vois.
Ok. Comment on passe de la petite Irma, pour revenir à ton histoire, qui a 12 ans et qui a droit à un album par sa sœur et qui écrit 5 chansons par jour, pardon, et qui termine propulsé à la Téloche, partout chez My Major, quoi. C'est quoi le chemin qui t'amène jusque-là, en fait?
Bah, c'est Internet, c'est YouTube.
Ah ouais?
En fait, je commence à poster des vidéos sur YouTube avec ces mêmes chansons qui étaient sur l'album de tous mes tubes. C'est dire à quel point le monde ignorait un génie.
Que faisait le monde?
Que faisait le monde quand cette petite fille de Douala avait fait l'album de tous ses tubes, on ne sait pas. Et donc, je commence à mettre des vidéos et c'était vraiment le tout début de YouTube. Et en fait...
C'est quand la tête? 2007, c'est ça?
2007. On est 5 sur YouTube, littéralement 5. Et d'ailleurs, on se connaît tous, on poste des vidéos de musique, machin. Et en fait, c'est l'époque où YouTube mettait en première page, tu sais, il faisait des features, ouais. Et il mettait en première page des vidéos d'inconnus qui faisaient des trucs. Et un jour, donc je poste des vidéos pareilles, là, la même, tu vois, la même, le même truc de travail, je poste, je sais pas, 5 vidéos par semaine, enfin, tu vois, de reprises, d'ailleurs, de reprises que j'apprends juste pour la vidéo, c'est-à-dire que je suis incapable de les refaire maintenant, tu vois. Genre, je me fais des challenges comme ça. Et à l'époque, j'ai vraiment genre 4 commentaires sous mes vidéos, mais en vrai, je me dis, c'est fou, t'as des commentaires qui viennent de je sais pas où, c'est incroyable, tu vois. Et un jour, je me réveille et j'ai une de mes chansons où j'étais au piano qui se retrouve en feature, mais dans genre 20 pays dans le monde. Truc de ouf. Et là, je commence à recevoir des messages, j'ai reçu des messages de la Starac, de tout, enfin de tout ce que je regardais à la télé, machin, et je me dis, oh putain, ok. Et en vrai, ça m'effraie un peu. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment... Enfin, en plus, j'étais dans mes études, etc. Et j'avais pas le... En fait, le côté industrie de la musique, business, machin, me faisait un peu peur.
Parce que 2007, t'es quoi? T'es encore au lycée, là, c'est ça?
Je suis en prépa à ce moment-là.
D'accord.
Et j'allais rentrer en école un an après.
Okay.
Et là, je tombe sur ce message de Michael Goldman, fondateur de My Major Company. Et en fait, ça m'a rassurée, tu vois, ce petit business qui démarre, où c'est l'argent des producteurs qui sont des gens comme moi. Tu vois, ce côté, en fait, je perds papier, ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, putain, c'est une bonne...
Donc, t'aurais pu finir la Starac?
Franchement, j'aurais pu finir la Starac. C'est chaud ou pas?
Non, en fait, c'est un autre chemin, je pense.
C'est vrai que c'est un autre chemin, mais je sais que ça me correspond pas du tout. Ça me correspond pas du tout, parce que je pense que ça...
Ils auraient cherché à te formater, tu penses?
Ouais, je pense. Je pense que ça formate, que ça t'inscrit dans un truc où tu peux forcément pas être libre, je pense.
Et t'as réussi à garder justement ce truc de pas te faire formater, même quand t'as commencé à être connu, etc.
Je l'ai gardé tant que je pouvais, mais j'ai réalisé, évidemment, plus tard, que malgré moi, je m'étais laissée formater. Mmh. Et parce que j'étais jeune et parce que je fonçais sans réfléchir. Et heureusement que j'ai pas réfléchi à ce moment-là. En fait, je me dis toujours, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, qui disent oui, quand tu signes tes premiers contrats, tu te fais avoir. En fait, je me dis, mais heureusement que tu as cette naïveté-là, parce qu'en fait, tu fais jamais rien sinon, tu vois. Et tout se rétablit de toute façon à un moment donné. Donc je me dis, on s'en fout, en fait. Chacun est à une étape différente de sa vie. Et je sais que moi, si j'étais arrivée avec la méfiance de me faire formater, de machin, que j'avais dit non à tout, que, tu vois. Mais je sais que j'ai mes propres limites, j'ai mes propres barrières, et je fais confiance à ces fondations-là. Mm-hmm. Et je sais que j'ai jamais accepté quelque chose qui ne me correspondait pas. Par contre, quand je dis que je sais que j'ai accepté de me faire formater, c'est que quand je vois ce que j'ai fait avant, c'est moi, mais je sais que c'est 10% de moi. Mm-hmm. Et je le vois, je le sais. D'ailleurs, c'est une raison peut-être pour lesquelles j'aimais pas forcément me voir en interview, me voir... Je sais qu'il y a en fait, je suis passée par un entonnoir qui était l'entonnoir de la vision de ma direction artistique, mmh. de mon label, de plein de choses. Et encore une fois, à aucun moment je leur en veux ou quoi, parce que eux, ils savent ce qu'ils font. C'est leur métier, c'est leur business. Maintenant, c'est à moi de dire à un moment donné, bah, en fait, je réalise que j'ai envie de faire autre chose.
Ouais.
Et à ce moment-là, me lever, partir et faire mon truc, quoi.
On va reparler un peu après de l'aventure My Major et tout, mais en fait, avant ça, je me disais, il n'y a pas un truc aussi de... Tu te vois aujourd'hui, 10 piges plus tard, en train de te dire, en fait, c'était 10% de moi, mais tu te vois, toi, aujourd'hui, 10 piges plus tard, augmenter de tout ça, quoi,
exactement.
Tu vois.
Exactement, t'as tout à fait raison. Mm. Exactement, et d'ailleurs, t'as raison de me le dire, parce que je suis souvent en train de m'auto-flageller en disant, oui, mais j'aurais dû, tu sais, genre, le truc d'auto-culpabilité. En fait, tu dis, mais en fait, j'avais 20 ans, c'est évident que je savais pas faire ce que je fais aujourd'hui, et puis j'avais pas la même... Je travaillais pas pareil, j'avais pas les mêmes connaissances, j'avais pas la même expérience, donc évidemment que en plus, enfin vraiment, je vais pas cracher sur tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était fou et j'ai kiffé. Et à aucun moment j'ai été malheureuse de ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, en regardant aujourd'hui, je me dis heureusement que j'ai fait ce chemin-là parce que je suis contente de voir que j'ai évolué en fait, que j'ai avancé.
Donc tu signes My Major alors, c'est ça, une fois que Mickaël t'a contacté. Et là, en fait, j'ai la sensation, en tout cas de l'extérieur, on ne se connaissait pas à l'époque, hein, mais que tu te fais prendre dans ce tourbillon médiatique à l'époque, qui est... alors que My Major a très bien orchestré, parce que je pense aussi qu'eux, ils étaient en train de lancer un business et que c'était hyper novateur à l'époque.
Bien sûr.
De, ok, en fait, vous êtes monsieur n'importe qui et vous pouvez décider de miser 100 balles sur l'album d'Irma et donc de contribuer à la production de son album, quoi.
Ouais.
Tout début du crowdfunding.
Tout début du crowdfunding. Et là encore, je prends le bon train, en fait, comme YouTube. J'arrive au tout début du truc. Les gens sont excités par cette idée. Ils voient qu'ils peuvent aider un artiste. Enfin, en tout cas, l'idée est nouvelle et elle est ouf, en vrai. Et je me rappelle quand ils m'ont mis sur le site, ils m'ont dit... D'habitude, on devait atteindre 70 000 euros. Et ils me disent, d'habitude, ça prend 5-6 mois. Moi, je me dis, écoute, j'ai le temps. C'est le moment où je rentre en école, en plus. Je me dis, j'ai le temps, je vais écrire des chansons, etc. Et en fait, j'arrive sur le site. Et donc, j'arrive sur le site un vendredi après-midi. Et le dimanche, c'est plié, c'est terminé. C'est-à-dire que toute la journée du samedi, avec ma sœur, on rafraîchissait la page. Et il y avait 1000 balles qui arrivaient, 1000 balles. Et je pense qu'à un moment donné, les gens ne regardaient même plus ce qui se passait. Ils voyaient tellement le truc augmenter que ça a suscité, tu vois, un espèce d'emballement. Et voilà. Et en 48 heures, c'était plié.
À cause de...
Je ne sais pas.
Il y a eu un passage télé, il y a eu un truc...
Rien du tout. Je pense qu'il y a eu la promo de My Major Company et du concept qui a ramené les gens sur le site. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que je dis... Il y a dans le succès, ce qui fait le succès souvent d'un projet, il n'y a évidemment pas de recette parce que sinon on saurait et puis on serait tous successful. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un alignement parfait des événements qui fait qu'à un moment donné, il y a tout qui est aligné. Et je pense que vraiment à ce moment-là, tout était aligné. C'est-à-dire que je suis arrivée sur ce site au moment où ça démarrait, au moment où certainement ils avaient fait une promo pour le site qui a ramené des gens. Enfin voilà, je ne sais pas exactement ce qui a créé cet emballement-là, mais je sais que c'était le moment parfait, quoi.
Donc ça y est, t'es produite en 3 jours.
Donc je suis produite et je suis là, ok, bon bah je vais faire un album. Alors là, ça commence à me mettre la boule au ventre. Là, je me dis, ok, j'ai des 416 producteurs. Je me dis, ok, donc 416 personnes attendent En plus, pour moi, déjà, c'est énorme, 416. Ça, je me dis, ça fait une, beaucoup.
Une chouette salle de concert.
C'est ça, ça fait une chouette salle de concert. Je me dis, bon, il y a le côté... Tout le monde pensait que ça me rassurerait d'avoir déjà un 416 personnes qui étaient, tu vois, là. Et j'étais là. En fait, ça me mettait une pression de ouf.
C'est 416 personnes que je dois payer en retour, c'est ça?
C'est clair. Je dois leur rendre leur argent. Et plus, OK. Bon, bah, je vais travailler alors. Et ça me met... En fait, c'est là, je pense, à ce moment-là, que je me dis, OK, c'est mon métier. Même si j'ai jamais osé me... Enfin, j'ai jamais vraiment, à ce moment-là, je me disais pas je suis chanteuse, parce que j'avais du mal à me dire ça. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, c'est parce que je savais pas chanter.
tu pousses un peu le bouchon.
Non, quand je dis je savais pas chanter, qu'on s'entende. Je dis pas du tout bah, c'était nul, machin. Au contraire, enfin, tu vois, moi je sais qu'aujourd'hui, peut-être Aino restera ma chanson la plus connue et celle qui a touché le plus de gens, et c'est très bien. Quand je dis je savais pas chanter, c'est que, tu sais, quand tu es cordonnier, t'apprends ton métier. Quand t'es pharmacien, t'apprends ton métier. Et c'est vrai que là, je pense que j'avais. Bah, toujours d'ailleurs à cause de mon éducation. Tu vois, il y a des gens qui se lèvent un matin, qui chantent, et c'est beau, et ils se posent pas la question. Et je sais que moi, j'ai l'impression que je me dis légitime que quand j'ai appris ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire ? Raison pour laquelle j'ai passé 4 ans à prendre, les 4 dernières années à prendre des cours de chant.
On en reparlera un peu après, si tu veux, de tes cours de chant. Ouais.
Mais bref, tout ça.
Donc
pour,
voilà, tu finis par te dire c'est ton métier.
Je me dis c'est mon métier. Et en fait, je commence à me dire, voilà, je fais de la musique maintenant, ça y est. Je suis dans la profession musicale.
Mais en même temps, tu viens de démarrer tes études.
Et je viens de démarrer mes études.
En plus, pas n'importe quelles études, puisque ouais. Tu fais l'une des plus grosses écoles oui. de commerce
ouais.
de France.
Le SCP Paris, qui s'appelle ESCP Europe maintenant. Ouais, et en fait, je vais les voir et je leur dis, en toute transparence, écoutez-moi bien, je suis la star de la musique. Non, je rigole. Je leur dis, écoutez-moi, Beyoncé. Vous voyez Beyoncé ? Voilà. Alors, regardez-moi maintenant. Non, pas du tout en plus. Je leur dis, écoutez, on va devoir faire un petit agencement, machin. Et en fait, je me retrouve à... Donc, je faisais des cours du lundi au mercredi. J'avais des journées de 8h, 20h. Et du jeudi au dimanche, c'était soit concert, soit studio, etc. Donc, je m'étais aménagé un truc comme ça. Mais je kiffais en vrai. Ça me donnait un équilibre de ouf. Je pense que si j'avais... arrêter les études, ouais. J'aurais pété un câble. Je pense. En tout cas, j'aurais pas fini ma construction équilibrée.
Ça te ramenait dans la vraie vie, c'est ça? Parce que...
Exactement. Ouais. Ça me ramenait dans la vraie vie, même si j'ai pas le respect de la vraie vie. Tu sais, quand on dit, comme les adultes disent, oui, non, mais c'est pas réel, tout ça. Je préfère, à la limite, pourquoi pas, être dans un truc fantaisiste. Ouais. Et tu vois, c'est pas mon problème de la réalité, de redescendre les pieds sur terre, machin. Ça, je m'en fous. Mais il y a un côté, en tout cas, qui faisait que ça reste un milieu que je découvrais, tu vois, et qui est un milieu un peu effrayant. Enfin, ouais, c'est un peu effrayant, tu vois, parce que tu t'arrives, tu sais pas si les gens sont avec toi par intérêt, si les gens... Enfin, il y a un truc compliqué quand même. Et donc, je pense qu'en tout cas, ça me ramenait un truc plus simple, en tout cas. Peut-être pas forcément la vraie vie, mais un truc plus simple dont j'avais besoin pour faire l'équilibre.
Oui, puis peut-être aussi dans une continuité par rapport à ta vie d'avant.
Complètement.
Qui est... Moi, mes plans, c'est de faire des études, quoi.
Ouais, exactement, exactement. En fait, laissez-moi tranquille. Moi, mes plans, c'est... c'est vrai, exactement. C'est vrai en plus.
J'imagine bien, c'est comme sauter... Enfin, tu vois, ouais. sauter d'un énorme pont alors que t'as le vertige et...
Ouais. Et, en fait, et tu gardes quand même un peu l'élastique, tu vois.
Tu t'étais dit, bon, peut-être que je sauterai dans 15 jours. Et là, les mecs viennent te dire, c'est maintenant.
C'est maintenant. Ah non, mais je me rappelle, la première... Donc, on a les 70 000 euros en 48 heures. Je commence à faire les chansons. Ma première télé, c'est un grand journal. Les mecs m'appellent la veille en disant « Quelqu'un s'est désisté. Est-ce que votre petite artiste Irma, là, ou Irmo, je ne sais pas comment elle s'appelle, est-ce qu'elle peut venir jouer ?» Ok. Et donc, le jour même, donc à midi, ils nous disent ça. À 14 heures, je fais des répètes avec mes musiciens parce qu'il fallait faire une version hyper condensée de I Know avec tout. Enfin, c'était
live en plus,
live, etc. Je n'ai jamais été. D'ailleurs, je peux même pas la voir aujourd'hui cette vidéo. J'ai jamais été aussi angoissée de ma vie. T'es dans l'arène en fait. T'es dans la fosse au lion. Démerde-toi. Et le lendemain, j'étais sur Canal Plus machin. Et le lendemain, l'album premier des classements, des machins, des trucs et tout. C'est ouf. C'est dingue, hein.
Donc, ta carrière est lancée.
Mm. J'ai quand même oublié une phase avant ce grand journal qui est que je fais un concert dans un café parisien où j'ai été repérée par un... Donc un peu après avoir récolté les 70 000 euros. Il y a quand même une période où il se passe pas grand-chose. Et donc je fais un concert dans un café parisien et je suis repérée par une grosse boîte de tournée. Donc ils me signent et c'est la boîte de tournée de M, de Diams, de TT, de voilà. Et il faut écouter à Diams mes maquettes.
J'allais t'en parler.
Bah oui.
Tu te doutes bien.
Oui, il faut écouter à Diams. C'était avant le début de la, avant cette histoire du Grand Journal. Ils font écouter à Diams mes maquettes et elle leur dit, écoutez, je veux bien qu'on fasse un essai, qu'elle vienne sur deux dates, donc sa dernière tournée, et on verra. Première date, à la fin de la première date, c'était terminé. J'étais engagée sur toute la tournée. Elle est devenue mon mentor de scène. C'est l'être humain le plus incroyable probablement que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Et c'est fou, encore une fois, d'avoir eu la grâce que ce soit la première personne que je rencontre dans ce milieu. Parce que tu peux tomber sur n'importe qui. Et vraiment, je suis pas tombée sur n'importe qui. Et donc, j'ai fait toute cette tournée avec elle. Et donc, tu vois, en plus, c'est des artistes. Et donc, il y a eu M derrière, TT, etc. Et en fait, forte de ces tournées-là, parce que c'est le même public qui revient, qui te voit, en fait, j'ai pris des fans de chacun un peu partout qui me suivaient, qui commençaient à me suivre. Et c'est comme ça que ma communauté en live a commencé à grossir. Et que quand l'album est sorti, avant même qu'il y ait ce truc du Grand Journal, il y avait déjà des gens derrière parce qu'ils m'avaient vu sur scène en première partie de tous ces artistes-là.
T'as été beaucoup trop vite sur Diams, hein, tu sais. Tu m'as
ah,
dit,
merde.
C'est ma mentor et tout, ça a été ma mentor.
Tu veux qu'on parle, on peut parler des heures. Hein.
Passe là-dessus, alors que t'as été... La première partie de Diams, qui est quand même, je pense, un monument, quoi, tu vois.
Un monument. Je sais même pas si le monument est faible.
De la pop culture française ces 20 dernières années, quoi. Pourquoi tu dis mentor, en fait? Parce qu'elle te prend sous son aile à un moment donné, c'est ça?
C'est ça. En fait, elle est venue me... Elle avait cette...
Parce qu'à l'époque, elle est au top de son game. Hein.
Elle est au top de son game. Voilà. C'est son dernier album. Elle a dit aux médias, vous m'avez saoulé tous. Moi, maintenant, elle a dit, moi, maintenant, mon terrain d'expression... Là où je vais parler, c'est sur scène. Donc, si vous voulez m'entendre parler, venez me voir sur scène. C'est terminé. Elle disait même sur scène, elle disait, voilà, moi, j'ai pris le risque de vendre 4 fois moins d'albums, mais c'est pas grave. Parce que je sais que ceux qui sont là ont envie d'entendre ce que je dis et recevront ce que je dis comme je l'envoie, tu vois. Et il y avait ce truc très fort qu'elle disait pendant ses concerts et qui m'inspirait beaucoup, bref. Et donc, elle est au top, en tout cas, d'elle-même, de son game, de sa force, de ce qu'elle veut faire et tout. Et en fait, quand j'arrive pour faire ses premières parties, pour moi, c'était tu fais une première partie, 20 minutes, 5 titres, tu te casses. Elle m'attrape à la sortie de mon premier concert. Elle me dit, écoute-moi bien, mon gars. Vraiment, genre, et moi je suis là, Diams, me parles-tu? Quoi? Et elle me dit, écoute-moi bien. I know oh oh là. Oh oh oh. C'est sympa, mais pourquoi tu les fais pas chanter? Et je lui dis, mais je vais pas les faire chanter, ils me connaissent pas, je vais pas leur dire, allez la France! Je sais pas qui, enfin ils savent pas qui je suis, ça va être ridicule. Et là, elle passe, je te jure, une heure à m'expliquer titre par titre, on reprend ma setlist, elle m'explique titre par titre. Comment inclure le public, comment, à quel moment dire... Enfin bref, elle me coach, tu vois. On se connaissait pas. Ça commence comme ça. Et en fait, pendant toute cette tournée, elle a été une... Elle venait me voir jouer tous les soirs. Elle regardait derrière le rideau, elle me disait « Ah, c'était bien ce soir, etc. » C'est dans ce sens-là que je disais mentor, c'est-à-dire que vraiment, artistiquement, par exemple, quand je faisais des maquettes, des nouvelles chansons, j'allais lui faire écouter dans son bus, etc. Et le truc qui était encore la cerise sur le gâteau, c'est que quand je bossais pour mes études dans le bus, dans le tourbus, elle disait à son équipe de ne pas rentrer pour ne pas me déranger pendant que je bossais. J'en ai les larmes aux yeux. Elle est super. Elle est exceptionnelle.
C'est fou quand même.
Elle est ouf.
Cette rencontre.
Franchement, encore aujourd'hui, je ne peux même pas l'appeler. Je l'appelle grande sœur. Je l'appelle pas, tu vois, je ne peux même pas l'appeler. J'ai tellement de respect pour cette personne.
Déjà, tu l'appelles Mélanie.
Déjà, on peut dire que je l'appelle Mel. C'est une grande. Franchement, c'est. Je remercie le ciel d'avoir été sur sa route, quoi. C'est ouf cette rencontre.
Waouh. Bah merci d'avoir partagé ça parce que on se connaît depuis peut-être un an et vraiment tu m'as balancé ça un soir alors qu'on était en train de bouffer un morceau. Et vraiment, j'ai laissé tomber ma fourchette quand tu m'as dit ça. Et tu m'as vraiment dit ça comme si c'était normal. J'ai fait, non, en fait, c'est pas normal.
Vraiment. Ouais, non, c'est ouf. Et elle m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Ouais. Elle m'a dit, tu verras. Elle avait le pif, elle me disait, moi j'ai le pif, je sais ce qui va marcher, je suis une DA, t'inquiète pas. Et elle a tellement raison. Et elle m'a dit, je sais que ça va cartonner pour toi. Je sais que ça va prendre très vite, très fort. Et elle m'a dit, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est que tu construiras une longue carrière sur tout ce que tu refuses de faire. Pas sur ce que tu acceptes de faire. Et sur le coup, évidemment, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais j'étais un peu là, c'est un peu dur quand même. Je comprends, enfin tu vois, je comprenais pas vraiment tous les tenants, les aboutissants de ce qu'elle disait. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je comprenais qu'elle avait tellement raison.
Ah, c'est un super conseil.
Ouais, c'est bien. Hein. Mm. Parce que t'as peur d'être le bad guy, tu vois, quand tu refuses des trucs, t'as peur de passer pour la personne, comment on appelle ça,
ouais, un peu de diva.
Oui, ouais, diva, machin. Mm. Et en fait, quand tu sais au fond de toi, quand tes gosses te disent de pas faire un truc, il faut juste pas le faire, quoi.
On revient donc au grand journal, pardon. Mmh, mmh, mmh. Explosion d'Irma. Comment tu vis ce succès fulgurant ?
Mal, parce que gros. gros syndrome de l'imposteur à ce moment-là.
Ah, encore ?
Ah oui, complètement. Ah, mais moi, le syndrome de l'imposteur, il me quitte que maintenant. Hein.
Mais pourtant, le monde entier.
Ah non, mais
te dit que
c'est
génial.
Ça qui est fou.
Comment ça se passe ?
Dans ma tête, il y a deux gens. Il y a quelqu'un qui, quand tu me dis que je suis génial, dit non, c'est pas vrai, et se bouche les oreilles comme ça.
Mais pourquoi ?
Mais parce que je pense tout autour de moi. Est-ce que j'ai pas le droit d'être bien, j'ai pas le droit d'être génial, j'ai pas le droit de faire des trucs bien. Même mon prof de chant, quand j'ai pris des cours, m'a dit, en fait, ton problème, c'est que t'as peur d'avoir une belle voix. T'as peur de chanter avec ta voix. Et je lui ai dit, non mais comment ça, déjà tu dis que j'ai une voix moche, donc merci.
T'es viré,
dégage. Et non, et en fait il me disait, t'as peur d'avoir trop de talent. Et de dire, ah moi je sais aussi faire ça, et ça, et ça, t'as peur de sortir de ma coquille, exactement.
Okay.
Et je sais qu'il y a eu beaucoup de... Ça a beaucoup joué dans mon sentiment d'imposture, tu vois, parce que j'avais ce truc de non, en fait, vous vous trompez, regardez, et puis, enfin, tu vois. Même quand j'arrivais, et dans les interviews, je réalisais beaucoup que je parlais avec une toute petite voix. Je prenais une voix très douce pour parler, comme ça, tu vois, pour pas déranger, pour pas... C'est marrant. Bref.
Et c'est qui la deuxième personne qui est dans ta tête, tu disais ? La première, elle est là,
non ! Bah oui, et du coup, il y a la deuxième qui est consciente de tout ça, mais qui s'est longtemps fait écraser par l'autre, tu vois, qui prenait toute la place.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ok.
Oui.
Je vois. Comment ça se passe ce parce que ça dure combien de temps ? 3...
Donc en gros...
3-4 ans, c'est ça ?
Le premier album, ouais. Le premier album, du coup, après tout ça, après les premières promos, le grand journal, etc., je pars en tournée, moi, sur mon album. Ça dure un an et demi. Sachant qu'avant, j'avais tourné un an en plus avant l'album. Et là arrive ce truc. Donc, fin d'exploitation du deuxième album. La tournée est finie. Je me dis, écoute, je vais me poser, machin. Je vais partir sur un deuxième album et tout. On est en 2012. Je reçois un mail dans ma boîte signé une agence de com. Oui, nous représentons Google. Écoute-moi bien. Oui, nous représentons Google. Nous allons Google vient de racheter YouTube. Nous allons faire une campagne. Ils me disent que campagne. Nous allons faire une campagne. Limite, je crois qu'ils écrivent petite campagne pour promouvoir YouTube et les différentes utilisations de YouTube. Et nous avons besoin d'une figure qui a utilisé Internet pour faire sa carrière, etc. Vous correspondez au truc. Je regarde le mail, je mets à la poubelle. Je mets dans la poubelle de mes mails.
Non mais...
Pour moi, c'est un spam.
Alors, pour les gens qui nous écoutent, les spams, non. Enfin,
les spams sont dans les spams.
Vérifiez quand même, à minima.
Vérifiez vos spams.
Regardez l'adresse. Enfin, je sais pas. Il y a plein de façons de pas foutre ce genre de mail à la poubelle.
Je me dis clairement, en plus, tu sais, vraiment la vieille qui comprend pas les comment ça marche. Je me dis, quelqu'un a hacké ma boîte. C'est la meuf qui comprend pas du tout. Quelqu'un m'envoie des mails anonymes et tout. Rien à foutre. Je le mets dans la poubelle.
Mais pourquoi ?
Attends, mais sur le coup, qu'est-ce que tu... Google, machin. Évidemment que je me dis, c'est comme quand Samsung te dit t'as gagné un téléphone, tu vois. Enfin, ouais. Je sais pas, mais genre... évidemment, tu es là, ouais, ok, super. Et donc, je le mets dans la poubelle. Il se passe genre un mois, et à un moment donné, je retourne dans mes spams, et je vois ce truc, et je le forward à mon manager en disant, au fait, regarde, il y a ça. Il me rappelle tout de suite, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref. Cut. Cut. Nous voilà avec l'agence. Non mais c'est absurde. On est donc avec l'agence de l'agence, c'est une agence londonienne à l'époque qui s'occupe de ça. Ils nous expliquent, voilà, nous on veut faire un spot qui raconte l'histoire d'Irma, comment elle est passée de YouTube à la scène, etc. Ils disent et moi au début je me dis pub, oulala, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me demander de faire ? Ils disent, écoute-moi bien, on va prendre toutes tes vidéos YouTube. T'auras besoin de rien faire, de rien tourner. On prend tes vidéos YouTube, on les met bout à bout, on raconte ton histoire, terminée. Toutes les images qui sont dans cette pub sont des images à moi. Il y a même des images de portables, je crois, à l'époque, justement sur la tournée de Diams, etc. Ouais. Vraiment des images toutes pourries et tout. À aucun moment, il rajoute des images filmées. Sauf qu'au moment où il nous envoie le spot, on le regarde, ouais, c'est super et tout. Et on ne sait toujours pas ce que c'est cette campagne. Tu vois, évidemment, en plus, dans ces milieux-là, ils gardent tout jusqu'à
bien
la
sûr,
fin.
Bien sûr.
La veille de la première diffusion de la campagne sur TF1 en prime time. Pendant l'Energy Music Award, en plus.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Il nous envoie le tableau des diffusions. Au fait, voici le tableau des diffusions de cette campagne où il y a donc ma chanson et ma gueule pendant 60 secondes à la télé. Non mais Fabrice, ce tableau, j'ai des frissons quand je t'en parle. On voit le tableau. Les mecs ont payé une campagne à je sais pas combien de millions d'euros
oui.
Pour mettre ma gueule à la télé avec ma chanson, tout simplement. Et le lendemain de la diffusion de cette campagne, j'ai vu vraiment l'avant-après. Lendemain de la diffusion de cette campagne, je sors dans la rue, les autographes, les machins, les nanas. Avant, tu vois, j'avais mon public très ciblé qui venait me voir en concert, etc. Mais il y a eu vraiment un avant, un après cette pub. Elle est passée à la télé pendant des mois et elle passait tous les jours, toutes les deux minutes. Improbable. Donc évidemment, je repars sur une tournée, le truc, j'ouvre une tournée, elle se remplit en deux minutes. Enfin, tu sais, genre vraiment le truc, et je crois que c'est là que j'ai perdu pied.
Ah.
Ah ouais, ouais. Je crois que c'est là que j'ai pété un câble.
Ça veut dire quoi ?
Enfin, quand je dis pété un câble, je crois que c'est là que pour le coup, j'ai plus été dans le monde réel. C'était trop. En fait, j'étais déjà fatiguée de la première tournée. Mais il a fallu repartir, donc j'ai nié cette fatigue et je me suis dit c'est maintenant.
C'est le moment jamais.
C'est le moment où jamais. Et j'ai bien fait, enfin tu vois, c'est bien. Sauf qu'en fait j'en ai trop fait. Enfin c'est vraiment c'était absurde. Je faisais des dates, j'allais à la Réunion. Je suis repartie à Paris. J'ai fait un concert et je suis repartie limite 2 heures après le concert pour faire une Fnac à Reims. Enfin tu vois genre.
Ah oui.
C'était n'importe quoi.
C'est 9 heures de vol hein à la Réunion.
Oui vraiment évidemment. Non mais c'est absurde. C'était que des trucs comme ça. Enfin, je faisais trois événements par jour, des concerts, des showcases, des machins. C'est bien. Enfin, tu vois, c'est pas. Je suis pas ouin-ouin. Je me plains pas du tout. Sur le moment, en plus, je kiffe, tu vois. Mais je sais que j'en ai trop fait à ce moment-là.
Et alors ? Tu finis par craquer ?
Et je finis par me dire, je me barre. Je me casse. Et donc, en plus, oui, non, alors. Avant de me dire je me barre, parce que je fais genre, je me barre. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que donc, l'album prend de ouf. Allô, le téléphone sonne toutes les 2 secondes. Allô, c'est Universal Republic aux États-Unis. On veut signer La Petite Camerounaise. Ok, super. Première signature, c'est la première fois qu'un label américain signait en direct une artiste. Normalement, c'est des licences. Donc, les mecs m'appellent. J'arrive chez Universal sur Broadway. Il y a mes photos partout. Dans les murs.
Ils savent.
Ils savent.
Ils savent accueillir.
Ils savent faire. Ils savent te faire signer. J'arrive, photos partout. Welcome, oh my god, that's amazing. Je fais le showcase devant les gens de Universal. Le patron, c'était une scène digne d'un film. Le patron de Universal Republic, à moitié dans le noir, comme ça, au milieu d'un trône, au milieu de la pièce, comme ça, qui me regardait. À la fin, tout le monde sort, il me regarde dans les yeux, comme ça, il dit : Qu'est-ce que tu veux faire de ta musique ? Moi, je suis là. C'est vraiment les trucs de film, quoi. Je dis, bah, je veux la partager avec des gens. Ok. Je me retrouve dans des soirées où ils m'emmènent avec des rappeurs, des machins. Je me retrouve dans des studios à 5000 balles la journée où ils font défiler des réals. Enfin, tu vois, vraiment, le truc. Le truc de la musique que les gens s'imaginent. Sans le côté malsain, d'ailleurs, parce que c'était pas du tout malsain. C'est juste que c'était vraiment grandiloquent, tu vois.
Comment tu vis tout ça, toi, à ce moment-là? Parce que j'imagine que c'est encore une étape au-dessus
de
tout ce que t'as
fait. Ah mais oui, t'es dans des baraques à LA, tu roules... Enfin, c'est n'importe quoi. Tout est n'importe quoi. En fait, tu n'as plus, là pour le coup, tu n'as plus pied, tu n'es plus dans la réalité, parce que en fait, tu n'es qu'un, tu sors de chez toi, ton cerveau en fait, il est mis sur off. Tu sors de chez toi, tu rentres dans une voiture, tu vas là, ensuite tu vas là, tu vois, il y avait 7 personnes qui répondaient au mail pour moi avant que ça m'arrive, et encore, enfin moi je répondais même pas. Finalement, j'avais l'information de fin, tu vois. Et sur le coup, je pense que je kiffe, tu vois, je fais le truc. Mais il se passe rien parce que c'est que de l'enrobage en fait, tu vois. Il se passe rien au fond de mes tripes. En fait, je pense que cette expérience, c'est ça qui m'a vidé.
Ouais.
Ça, en fait, t'enlèves la substance et tu gardes que le décor, et c'est la faute de personne, hein, tu vois. C'est juste.
C'est le système qui.
C'est voilà. C'est juste un truc de décor, quoi. Et en fait, t'es happé par tout je te dis, tout le process, le fait qu'il y a plein de gens qui bossent pour toi, qu'on invite plein. Tu te sens important, tu sens qu'il y a, enfin, tu vois. Et encore, vraiment, je suis la personne la moins, tu vois, je suis pas une diva du tout, tu m'as bien vu. Mais tu t'es pris dans le truc. Je suis la pire meuf. Je suis insupportable.
Ouais,
d'ailleurs, je suis venue avec mes quatre domestiques.
Bah, ils sont tous là. Ils sont dans la pièce.
Chacun m'emmène.
Faire ton passage. Ouais, donc, mais en attendant, t'es quand même dans la machine, quoi.
Ah, t'es dans la machine. C'est fou. Et je suis très contente d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, ça m'impressionne plus. Je sais. Tu vois, quand je me dis vraiment, quand on m'en parle, je suis là. Mm-hmm, oui. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir vécu à ce moment-là parce que je sais que c'est plus quelque chose qu'aujourd'hui, je vais penser que je veux. Je ne veux plus ça. Je ne veux pas ça. Tu vois.
Donc, re-succès.
Ouais, donc re-succès. Que de succès, finalement. L'album de tous ces tubes, comme disait ma sœur.
Elle avait raison.
Elle avait
depuis
raison.
Depuis le départ.
Depuis le début, elle savait. Donc, re-succès. pareil, en Allemagne aussi, ça se passe hyper bien. Je signe là-bas, je fais des concerts là-bas, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment le moment où tout prend, tout s'aligne, je fais des concerts, je vis vraiment de ma passion, tu vois. Je gagne des sous, je gagne des sous, je rentre dans des magasins, je m'achète des instruments hyper chers. Enfin, tu sais, pour moi, c'était vraiment l'achievement, quoi. Mmh. Tu vois, il y avait le truc de... Et j'arrive je me dis, je vais m'installer aux États-Unis parce que il faut que je sois sur place. Comme tu sais, quand les gens disent il faut être à Paris, c'est là qu'il y a le taf. Je me dis, bah, si j'ai signé là-bas, il faut que je sois committed, il faut que je sois sur place, il faut que je... Voilà. Je m'installe là-bas. Et là...
À New York.
À New York. Mm-hmm. Je t'explique. Le premier soir, ça fait 46 heures qu'on parle.
Vas-y, c'est bien.
Le premier soir, je me couche dans mon lit et mon corps se bloque. Je te jure, je pouvais même pas me lever pour aller aux toilettes. Mon corps bloqué, terminé. Le dos enfin, tout se bloque. Et je reste comme ça dans mon lit pendant 4 jours.
Non.
Je te jure. J'appelle ma mère et en fait, je minimisais le truc. Parce que c'est un moment où tu peux pas, en fait, tu peux pas expliquer aux gens que t'es malheureux. Ils vont te dire, mais t'es malade. T'as signé aux États-Unis, tu fais une tournée, des machins. Jamais, tu vois. Et donc, je cache ce truc. Et c'est que après que j'expliquais à ma famille ce qui s'était passé là-bas, parce que sur le coup, je dis à personne. Donc, seule toute, dans mon truc là-bas, que je connais personne, où je suis allée pour Zarma bosser avec des producteurs américains et tout, alors qu'en fait, j'en avais aucune envie, mon corps, il dit, c'est mort. Ça n'existe pas ce que t'es en train de faire, c'est non.
J'ai une amie qui a fait pareil. Elle a déclenché comme ça un truc où un matin, elle n'arrivait plus à se lever. C'était
fini.
C'est
ouf, hein.
Ton corps, il fait.
Ton corps, il dit non.
Ça suffit.
Ouais. Qu'est-ce que tu. Tu crois que tu vas où, là? Laisse-moi
arrêter maintenant.
Faut arrêter, madame, maintenant. Et okay. Heureusement qu'il a fait ça. Le patron d'Universal Republic s'appelle Avery Lipman, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Il était fondamentalement persuadé que ça allait marcher. Il était à fond. C'est lui, personnellement, qui m'emmenait dans des events pour me présenter aux gens, tu vois. Donc je pense pas que mais c'est juste que c'est un gros label, ils ont d'autres artistes, donc à un moment donné ils vont pas tu vois s'attarder sur des trucs qui mettent du temps à fonctionner. Et quand je comprends ça, je me dis il faut que je reprenne ma liberté. J'avais signé pour 5 albums et je me dis
5 albums c'est
ah mais 5 albums c'est la vie,
c'est ta vie,
c'est
hein.
ta vie. Et je me dis il faut que je reprenne ma liberté. Je peux pas avoir signé pour 5 albums, qu'est-ce que je fais, enfin tu vois ça, je commence à paniquer dans tous les sens. Et là, je me dis, non, mais il faut le dire. C'est pas grave, c'est pas Dieu, tu vois. Enfin, tu le dis, je veux me casser. Et donc, je prends un rendez-vous avec le patron d'Universal. Et je lui dis, écoute, moi, je veux reprendre mes trucs à l'amiable. Je sais que pour moi, pour mon évolution, c'est important que là, je reprenne ma liberté. Et puis surtout, on sait tous ensemble que si à un moment donné nos chemins se recroisent, ils se recroiseront et il faudra qu'on soit quittés en bon terme pour que ça puisse refaire, tu vois. Et en fait, on était tellement en bon terme qu'il m'a dit, bah oui, qu'est-ce que je te dise, oui, ok, tu vois. Et avec ce truc en plus qu'à l'époque, il m'avait signé à un moment donné où il rendait leur contrat à des artistes, tellement le marché de la musique s'écroulait, tu vois. Donc il y avait cette pression de, non mais t'es signé aux États-Unis comment tu peux vouloir rendre ton contrat, enfin tu sais genre c'est pas possible, tu vois. Je le fais et en fait je m'enferme dans ce truc à New York avec enfin j'ai repris mon contrat, bon ça a pas pris un jour évidemment, mais je sais que je suis libre et je fais de la musique.
Ça y est, t'es reparti.
Ça y est, je suis reparti. Je fais de la musique, je compose des trucs, je vais voir des concerts, je m'inspire, je me dis écoute, t'es là, tant qu'à faire. Je savais que ça allait me déprimer de rentrer en France. Je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait une énergie que j'avais à capter là-bas. Donc je me dis, reste là, travaille, fais de la musique, machin, je m'achète des petits instruments, je fais mon petit studio et tout. Et je commence à bosser, et de là est né donc le deuxième album. C'est ça l'histoire.
De là part aussi une volonté féroce de liberté, j'imagine.
De ouf. Et ça qui est drôle, c'est qu'en fait, tu sais jamais quand t'es arrivé. Tu sais, moi je marche beaucoup dans la montagne, et il y a des trucs vraiment où il y a des journées. Tu m'as vu cet été ou pas? La guerre. Je recommande à tout le monde de le faire. Mais il y a ces trucs où vraiment tu marches toute une journée, tu montes. T'arrives à un truc que tu pensais être le sommet, et en fait il y en a encore 7 autres derrière. Tu vois? Et j'avais cette impression là que j'avais atteint une certaine forme de liberté, qui c'était le cas par rapport à avant. Mais encore une fois, en avançant, j'étais vraiment pas au bout encore, tu vois.
Ok. Quand est-ce que tu décides de te mettre au chant alors? Parce qu'il y a cette histoire qui est folle.
Histoire folle. Donc ça c'est donc je fais ce deuxième album.
Tout ça.
Donc là je fais ce deuxième album, je fais la tournée de ce deuxième album, je reste chez ma meilleure compagnie, etc. Et là on va refaire un autre bond dans le temps. Mais en gros, à la fin de la tournée de ce deuxième album là. Tu disais là tu sens que t'es libre, justement c'est le moment où je me dis oui libre, bof, tu vois, là je me dis autant y aller quoi, si je vais être libre autant être libre, en fait c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Être libre c'est quoi? C'est faire ce que t'as envie de faire, c'est t'entourer des gens avec qui t'as envie de t'entourer, c'est essayer de créer ton propre système. Ça fait peur parce que j'ai voulu garder la soupape du label, de machin, mais à un moment donné je me suis dit, si je veux aller là où il faut que j'aille, je ne savais même pas encore où il fallait que j'aille, je me dis, il faut que tu sois livré à toi-même, en fait. Il faut que tu te retrouves dans la position de la débutante qui... Pas la débutante, mais si tu veux...
Oui, de s'émerveiller à nouveau,
oui,
peut-être.
Oui, j'adore ce mot, c'est exactement ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et je me dis, c'est ça, il ne faut pas que je sois dans la... Pareil, il y avait un truc, tu vois, sur ma tournée du deuxième album, on était 6 sur scène, tout était hyper grandiloquent, tout était... Je me dis, en fait, c'est pas ça, ça y est, c'est bon, c'est pas... Tu l'as fait 46 000 fois, tu vois très bien que t'es pas bien là-dedans, t'es pas bien dans ce truc, tu vois, qui veut en jeter, qui machin, grosse prod et tout. Fais des trucs, fais ton truc avec ton cache, tu sais, les trucs de micro, là, avec ton bas, ouais. Tu sais, genre, fais tes trucs à l'arrache, enfin, tu vois, c'est comme ça, quand je dis à l'arrache...
Oui,
tu vois,
j'entends
genre,
bien.
Comme avec tu sais, moyens, avec peu de moyens, comme tu sais les faire, comme t'aimes les faire, machin. Et donc, à la fin de la tournée de cet album, je décide de partir sur les routes que avec mon batteur, avec qui je m'entendais très bien à l'époque, pour essayer un peu de me laver de tout le truc un peu grandiose, grandiloquent et tout. Et on va faire des salles, mais je te dis des salles, on va faire des salles des fêtes dans des villages qui n'existent pas. Et on fait une tournée de 100 dates comme ça. On est à deux, Et on joue partout. Et ça, ça me fait un bien fou. Et de là, je me suis posée, en fait. Et ouais, je te dis, dans cette volonté-là de me remettre dans le truc d'émerveillement, je me dis, il faut que je me réapproprie ce que je kiffe faire. Mmh. Et ce que je kiffe faire, c'est... En fait, j'ai réalisé que je pouvais plus juste prendre une guitare chez moi, chanter et kiffer.
Ah ouais?
Je me disais, c'est trop bizarre. Ouais. Il fallait qu'il y ait tout le truc autour. Oui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vois, ouais. Même cette volonté de faire une tournée à la fin, je me disais, mais en fait, c'est trop bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour chanter, t'as besoin qu'il y ait des gens qui te disent, ouais, c'est trop cool. Tu vois? Ouais. C'est trop bizarre de.
C'est normal.
Bien sûr, c'est normal. Très bien. Mais. Sur le coup, ça me fait un peu... je me dis, mais c'est, il ne faut pas que je repose mon envie d'en faire mon métier pour toute ma vie sur ça. Et si demain, les gens ne sont pas là, je vais faire quoi? Je vais mourir? C'est trop... Il ne faut pas, tu vois. Et du coup, j'avoue que grosse période, là, encore, de burn-out, de remise en question, de... Bah oui, les gens qui doutent, toujours. Mais c'est bien ces périodes. Et je me pose 1000 questions, je me demande si j'aime encore faire ça, si vraiment, parce que je me dis, tu peux plus juste prendre une guitare chez toi et faire de la musique et kiffer, ça veut dire que c'est plus ta passion. Mm-hmm. Et je me dis, au lieu de dire c'est plus ta passion, réapproprie-toi le truc. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des cours. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux juste reprendre une guitare, chanter chez moi et me faire des frissons toute seule. Et je me disais, pour ça... Remets-toi dans l'état d'esprit dans lequel t'étais quand tu composais tes chansons.
T'avais 12 ans.
Mais oui,
exactement.
C'est la vérité. Et je me suis dit, qu'est-ce qui te faisait kiffer? Et en fait, c'était le fait de tout le temps découvrir des nouveaux trucs. Et je me rappelle du moment où j'allais voir ma sœur jumelle toutes les 2 secondes en lui disant, j'ai une nouvelle chanson. Ça s'appelle Sous la pluie. Sous la pluie. Et genre, elle me disait, tu peux pas commencer tout le temps tes chansons par le titre de ta chanson. C'est vraiment notre vanne récurrente. Je lui faisais ça tout le temps. Et je me disais, ce qui m'excitait à ce moment-là, c'est que je découvrais. Et j'avais aucune prétention, je découvrais juste, et juste le fait d'apprendre me mettait trop bien, me mettait en joie. Et je me dis, ok, et c'est à ce moment-là que je me dis, je vais apprendre tout ce que je peux apprendre. Je m'achète des synthés, des trucs de... J'apprends à mixer, machin, et dans le lot, je me dis, je vais me former vocalement. Je vais apprendre cet instrument qu'est la voix, parce que c'est un instrument, en fait. Et
là, je découvre un univers. En fait.
Pas du tout. Pas du tout. Et là, je découvre un truc, Fabrice, mais je découvre moi, en fait, tout simplement. Je découvre tout, c'était une thérapie, ce travail de la voix qui est exceptionnel. En fait, je découvre à quel point je me suis coupée d'une partie de moi, à quel point il y a une partie que je refoule, à quel point il y a une partie que... Enfin, c'est dingue, j'ai compris tellement de choses avec ce travail de la voix, c'est fou.
D'ailleurs, si vous écoutez Irma maintenant, c'est-à-dire dans les titres là, que tu as sortis très dernièrement et qui seront sur ton prochain album. Et puis Irma, il y a 10 piges quand tu étais encore un bébé, quoi.
Ouais.
On n'a pas du tout l'impression que c'est la même personne.
Non,
quoi.
C'est fou. C'est ouf. Hein. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs que ça gênait à un moment donné. J'étais là, bon, tant pis. En tout cas, moi je sais que.
Ah oui, dans le sens où ils avaient l'impression de te connaître.
Ils se disaient, oh là là, mais qui c'est? J'étais là, désolé. Hein,
c'est, moi.
C'est moi, regardez.
C'est toujours la même personne.
C'est toujours la même personne. Mais moi, ça m'a... Et c'est ça, en fait. Ça a été ça, mon chemin vers la libération de tout, tu vois. Je voyais... Le déclic a été quand j'ai accepté... En gros, pour te dire, je vais parler de trucs techniques.
Qu'est-ce que t'as appris pendant tes cours de chant, en fait
Alors, je suis arrivée avec une petite voix comme ça. Et j'ai toujours pensé que j'étais soprane, c'est-à-dire la voix la plus aiguë des femmes. Parce que je chantais hyper aiguë dans le souffle et machin. Et petit à petit, je commence à chanter, à former ma voix, en passant en plus par ce moment horrible où tu n'as plus ta voix d'avant et tu n'as pas non plus ta voix finie. Donc t'es là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
T'es en mu.
J'étais en mu. Tu dis, oh mon Dieu, j'ai niqué mon instrument de travail, c'est terminé, machin et tout. Ouais. Et le jour où j'ai sorti ma voix, j'ai réalisé que c'était ma voix. En fait, mon prof m'expliquait, il me disait, tu déguises ta voix, tu maquilles ta voix. Tu prends une voix quand tu chantes, qui n'est pas ta voix parlée. Et je lui disais, mais si, c'est ma voix parlée. Il me dit, non, parce qu'en fait, tu as toi-même modifié ta voix parlée. Je lui disais, mais comment je peux avoir modifié ma voix parlée? Évidemment, je suis une noire qui va dans un lycée français au Cameroun, je débarque en France, évidemment que mon identité, elle est, je suis une nana qui veut pas du tout, qui s'est jamais reconnue dans les codes de la féminité telles qu'ils sont exposés. En même temps, j'ai pas du tout envie d'être un mec, je suis désolée, hein, je vous adore, mais...
Je grand bien t'en fasse.
Tu vois, donc il y a tout ce truc de dualité, de machin, qui se retrouve dans mon identité, qui est en conflit, machin. Il me dit, là, le moment où tu vas trouver ta voix, c'est quand tu vas accepter ce que t'es. Tu es une femme noire, mais tu as ta propre définition de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut que tu cherches et que tu trouves. Et à un moment donné, il me dit, en fait, il faut que tu chantes comme tu parles. Mais avant ça, il faut que tu réapprennes à parler, que tu te rééduques. Et on commence à faire des exercices. Je te jure, hein, je prenais des cours de chant, ça durait toute la journée. Et pendant 5 heures, c'était de la psychologie, de la respiration, de la méditation, etc. Et arrive le déclic quand je réalise que ma voix parlée, elle est la plus proche de moi quand je parle avec mon accent camerounais comme ça. Et que j'avais complètement refoulé le man. Tu vois ou pas? C'est fou, hein?
Oui.
Et là, je commence à lui parler avec l'accent camerounais. Il me dit, mais parle comme ça! Et tu vois, il me dit, mais parle comme ça! Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'on faisait des blagues. Et tout passe d'ailleurs toujours par des blagues. Parce que c'est là que tu lâches prise, tu vois.
Tu lâches prise.
Et on commence à faire des vannes, je sais plus quoi. Il me dit, je sais pas, je dis, je suis sur scène et je commence à parler au public et je suis là, non, je vous aime! Tu vois, des trucs comme ça et tout. Enfin, bref, on rigole, on se marre et tout. Il me dit, mais ça, c'est ta voix. Je lui dis, mais comment ça, c'est ma voix? Et là, je commence à réaliser que. Et maintenant, c'est ce qui est fou, c'est qu'il faut que j'y pense. C'est toujours pas naturel parce que là, ça fait 3 ans, tu vois. J'ai parlé toute ma vie avec une autre voix.
Ouais.
Et en fait, c'est fou de te dire qu'il faut que tu te rééduques à parler avec ta voix normale. C'est dingue, hein.
C'est vachement inspirant.
Oui. Mm. Et c'est à ce moment-là que tout se débloque. Je me dis, putain, en fait, maintenant, les gens, ils vont savoir que je suis noire. Non, mais je rigole. Mais tu vois, il y a un truc de, mais tu sais que l'un des commentaires... Et en fait, j'ai fait le rapprochement de toutes ces choses que je ne me disais pas. C'est-à-dire que j'ai fait le rapprochement sur la vidéo d'Aino, avant qu'elle soit envahie par des commentaires russes, parce que ça a marché en Russie. Le premier commentaire... Ouais, nos amis russes, on les adore. Le premier commentaire, c'était un commentaire de quelqu'un qui... Non, le commentaire le plus liké, c'était quelqu'un qui disait « Ah, elle est noire !» J'aurais dit, à la voix, j'aurais dit que c'était... je m'imaginais que c'était une blanche... Et sur le coup, ça m'avait vachement choqué. Je me disais, c'est trop bizarre. Wesh, moi, c'est la soul. Moi, ouais, héritage, Aretha, Sissi, ouais. Nina et tout. Et en fait, oui, ma voix, elle était totalement maquillée, lissée par tout ce poids de moi qui me cachait, qui essayait de rentrer dans... Et en fait, aujourd'hui, quand je commence à chanter, on a compris que j'étais noire, par contre. Tu vois, clairement, ça... Tu vois. Et tout le monde, et justement les gens qui ont repéré ce truc de voix, ou même qui l'ont pas repéré, me disent, sans vraiment savoir de quoi ils parlent, putain, on a vraiment l'impression que ça vient de tes tripes, tu vois. Et du coup, j'ai même pas envie de leur expliquer le process du chant, parce que tu vas pas expliquer, là on en parle.
Je leur dirai, allez écouter le podcast avec
Fab Flo, et vous comprendrez tout ce qui s'est passé. Mais il y a vraiment ce truc d'identité que j'ai trouvé... avec ma voix, et où justement j'ai accepté ma dualité, tu vois. J'ai arrêté d'opposer, et c'est ça tout l'objet de mon album en fait. C'est pas noir ou blanc, c'est pas fille ou garçon, c'est pas... En fait, il y a vraiment ce truc où pour moi, tout ce que je suis, c'est la réconciliation de ces choses-là. Mais comme on a tendance à les opposer tout le temps, tu te construis en conflit. Ouais, tu crois que l'un doit chasser l'autre, tu vois. Tu crois que parce que t'es noire... Moi, je suis une noire qui a été élevée dans un milieu occidental. Mes amis sont blancs. Enfin, tu vois, j'ai aucun conflit. Et pourtant, on te pousse à être dans le conflit perpétuel, tu vois. Donc, c'est ça. C'était un travail de ouf. Ça m'a fait un bien fou.
Waouh. Mmh.
Même quand je te le raconte, ça me fait du bien. Parce que...
Non, mais c'est cool.
Je réalise.
Et en fait, c'est là aussi pour rebondir sur le tout début de l'interview où tu disais, quand je me revois aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, j'étais 10% de qui j'étais, mais en fait, t'étais pas 10% de qui... Et je pense que si tu te revois dans 10 ans, tu vas te dire, ah putain, en fait, j'étais 10% de ce que t'es aujourd'hui,
évidemment.
Parce que c'est un chemin, quoi.
Exactement, et heureusement.
Et qu'est-ce qui te reste à découvrir, alors, tu te rends compte?
Mais c'est tellement bien. Ça me fait kiffer de ouf. Et justement, mon prof de chant, comment je l'ai rencontré, comment je lui ai dit, viens, on travaille ensemble. J'étais sur un festival et lui, il faisait le merchandising d'un autre artiste. Et du coup, il me voit, il me dit, ah Irma, j'adore ce que tu fais, je suis prof de chant, tu sais, et tout. Et je lui dis, alors, t'as pensé quoi? Tout de suite, moi, je suis dans le côté, ok.
Évalue-moi.
Parle, évalue-moi. Tu vois ou pas? Dis-moi, valide ou pas? Tu es prof, tu es docteur. tu es docteur. Valide de l'histoire. Et donc, il m'a... et il me dit, cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie, il me dit, bon, tu veux la version vraie ou la version un peu
sympa.
Sympa. Je dis, bah, je veux la version vraie. Et il me dit cette phrase, il me dit, tu es à 10% de ton potentiel vocal. Et ça m'a ouvert, ça m'a rappelé là ce que tu dis de justement quand je me regarderai dans 10 ans, je dirais ah j'étais à 10%. En fait, au lieu de me crisper, de me dire mais il se prend pour qui, genre je suis à 10%, en fait ça m'a ouvert un... ça m'a libéré. Tu sais, je me suis dit en fait j'ai encore tellement de choses, c'est trop bien, tu vois. T'as de la matière pour vivre, pour il y a de l'espoir quoi.
Et donc ça fait 3 piges maintenant que tu travailles sur cet album. Mmh. Ça fait aussi, je pense que c'est important d'en parler, mais ça fait 3 ans que tu as disparu des radars.
Ouais, de ouf.
Médiatiques, artistiques, etc. Alors tu continues à taffer, ça c'est sûr et certain. Mmh. Mais comment ça se passe de décider de plus avoir de métier? Parce qu'en fait, tu continues à faire ton métier, mais en même temps, c'est plus ton métier. J'imagine qu'il y a un truc, à un moment donné, qui est. Ça doit être un peu compliqué pour toi de, tant que tu produis rien au monde, entre guillemets, t'existes pas, non ?
Bah, c'est ça qui est ouf. Et je pense que j'avais besoin de désexister. Et en fait, je me dis à ce moment-là, c'est hyper dur. Parce que c'est exactement ce que t'as dit. L'image qu'on te renvoie, c'est tu n'existes plus. Parce que les gens t'ont connu à travers les médias. Et donc, il y a un truc de, mais tu ne fais plus de musique. Et je suis là, mais si j'en fais justement, là, je suis en train de faire mon métier. Et évidemment, c'est compliqué parce que bah, le but, c'est aussi de la vendre, sa musique. Mais j'avais tellement ce truc de... Il faut savoir fermer sa gueule quand t'as plus rien à dire ou quand il faut. En fait, j'avais besoin de me réemmagasiner d'énergie, de matière et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai trouvé que c'était incompatible avec le fait de continuer à vouloir exister par des bribes de. Tu sais, hey, coucou, je suis là, regardez-moi, je fais des petits trucs par-ci par-là. Et j'ai été assez radicale. J'ai tout coupé, j'ai fermé mes réseaux sociaux. Je me suis enfermée. J'ai bossé et tout. Le moment où je bossais la voix, mais où je bossais aussi sur les sons du 3e album. Je pense que c'était important pour moi de... C'est ça, en fait, de juste me reconnecter avec moi-même, de me dire je fais ça pour moi d'abord, mais c'était un risque de ouf. Et c'est un risque de ouf que j'ai pris. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai tout investi dans mon album. Et puis, je suis sans emploi. Enfin, tu vois, je fais de la musique, c'est une chance, mais c'est aussi... Enfin, tu vois, j'ai pas le truc de sécurité d'un label. J'ai pas, tu vois... Je suis vraiment livrée à moi-même, mais je sais que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, tu vois.
Donc l'album, il sort bientôt ?
Donc l'album sort. Tu veux la date ?
T'as une date ?
Ouais, j'ai une date.
Non, c'est ironique. Alors, faut que vous sachiez, si vous connaissez pas, vous connaissez pas notre vie, hein, mais en fait, à chaque fois qu'on se voit avec Irma, c'est quand est-ce qu'il sort ton album ? Parce que ça fait environ un an qu'on se connaît maintenant.
Ça fait un an qu'on se connaît.
Et ça fait un an que je te tanne. Enfin, j'ai découvert.
Ça fait un an surtout que je te dis qu'il sort demain et qu'il sort pas.
C'est ça. Tu m'as envoyé un SoundCloud privé et en fait, j'ai écouté cet album et j'ai fait putain, mais c'est fantastique. Quand est-ce que tu sors ? Et tu m'as dit, ça sort bientôt.
Un peu d'arnaque. À la camerounaise. Non, c'est là bientôt. Non, t'inquiète pas.
Moi, j'ai couru, hein.
C'est
tu
clair.
Vois, moi,
non, mais vraiment pour que vous sachiez, Fabrice est vraiment responsable. Il y a des écoutes donc sur mon SoundCloud privé parce que j'ai passé à quelques gens proches. Fabrice est vraiment responsable de 90% des écoutes. Il sait pas que je sais parce que je vois d'où ça.
J'ai beaucoup écouté.
Il sait pas que je sais que c'est lui.
J'ai beaucoup pensé ton album. Ouais.
Alors, tu vas être déçu par la date parce que c'est en. Il sort le 14 février 2020.
À Saint-Valentin.
Oui. Je voulais le 15, mais il sortira le 14.
Okay.
Parce que c'est des trucs de vendredi. Apparemment, il y a une loi aujourd'hui dans le monde entier pour que les albums sortent le vendredi. Okay. J'ai pas compris l'histoire.
Okay.
Et
donc ça y est.
Donc ça y est. J'ai une date. Je t'avoue que j'ai un peu le post-truc. Du coup, je suis là, oh là là. Pff.
C'est encore loin en même temps.
Déjà, c'est loin, c'est vrai. Mais je suis sûre que ça va passer hyper vite. Et qu'entre, il va se passer des choses. Je vais sortir des clips, etc. Mm. Mais ouais, pour moi, ça marque vraiment. C'est, enfin, tu vois, je là où je suis contente et là où je me dis j'ai quand même achieve ce que je cherchais quand je me disais il faut que je re-kiffe, c'est que je suis contente que ce soit une satisfaction de ouf de juste rendre les choses disponibles, de juste les poster, de juste les rendre, les partager aujourd'hui. C'est tu vois, j'attends plus, je suis plus dans le truc de l'annotation, tu vois. Dans le truc de est-ce que on m'a mis 5 étoiles, est-ce que en fait j'ai dit j'ai posé ça là mon gars et j'ai kiffé le faire, donc en fait en vrai que tu kiffes ou pas c'est même pas mon problème. Et il y a un truc où je sais que les gens ils ressentent ça de ouf.
Alors moi je veux 5 étoiles sur mon podcast, alors
okay,
n'hésitez
je vais
pas
te mettre 5 étoiles et surtout je vais faire plein de comptes et je te mettrai
pas obligé d'aller jusque là. Juste dis aux gens, en fait, si vous avez deux minutes, et mettez 5 étoiles sur iTunes.
Non, après, on va pas se mentir, évidemment, que c'est ça qui amène la visibilité.
Tu vois, je vois sur tes stories, sur Insta, tu montres en fait que tes trucs marchent, et j'imagine que pour toi, c'est une vraie satisfaction.
Bien sûr, c'est une satisfaction, parce qu'en plus, tu te dis, je l'ai fait toute seule, tu vois. Il y a un truc de, évidemment, de... Putain, c'est sorti de moi et c'est là et c'est visible et c'est à mon échelle parce que c'est pas les gros médias que j'avais avant, mais c'est petit à petit et ça viendra, tu vois, ou pas, mais peu importe, chaque chose saura où ça doit être, tu vois. Mais il y a ce truc de... Oui, je rends des comptes en mode... presque en disant, presque en voulant dire, franchement, viens, tu te lèves et tu fais un truc et en fait, tu le mènes au bout et tu vois, ça peut fonctionner, tu vois. Par exemple, même les streams de Black Sun, tu vois, que je mets, parce que Black Sun s'est retrouvé sur des playlists de ouf sur Spotify,
aux US et tout,
alors que vraiment, on a sorti ce truc, indé total. En plus, Spotify, ils sont assez opaques sur leur playlist, il n'y a personne qui... Tu peux pas... Et en fait, c'est des trucs, tu peux pas savoir qui ça touche, où ça, d'où ça vient, etc. Et ça m'a vraiment... Il y a ce truc de gratitude où je me dis, en fait, il faut juste poser les... Tu fais les trucs, tu les mets, tu les montres, tu les fais exister au monde, et celui qui s'en empare, et c'est cool, tu vois. Et c'est trop bien. C'est très satisfaisant comme sensation, et tu vois, même le fait de dire c'est très satisfaisant, c'est un truc que je n'arrive à dire que depuis quelques temps. Là, par exemple, on était à La Cigale il y a pas longtemps, c'était ma première date parisienne depuis 4 ans. Quand je suis sortie, je disais à mon équipe, c'est la première fois que je suis fière. Que j'arrive à dire, je suis fière de ce
que tu vois. Ah oui, c'est la première fois que
tu arrives à dire. Non, pardon, que j'arrive à dire.
À le verbaliser.
Je suis trop, voilà, à le verbaliser, tu vois.
Parce qu'avant, c'était quoi? C'était plutôt, ok, en fait, c'est une pierre dans l'édifice et il faut en trouver une autre derrière,
c'est ça? Oui,
voilà,
exactement. Je me satisfaisais pas du fait que c'est fait. Que c'est là et qu'on s'en fout, c'est pas de toute façon après c'est plus dans mes mains et tu vois il y avait ce truc de oui c'est ça, de pas se satisfaire que ce soit juste là en fait.
Tu fais de la méditation toi ou pas?
Oh bah oui j'essaye hein. Ouais.
Ça, c'est très...
Ouais. J'essaye et vraiment c'est le truc le plus dur en fait. Non,
c'est
pas pour toi?
Non je sais pas, c'est un chemin en fait, je pense que tu vois, de la même façon qu'il faut apprécier le truc quand c'est là, je pense qu'il faut juste apprécier ou parfois t'y arrives entre guillemets ou t'y arrives pas. Le simple fait de le faire, c'est déjà bien. En fait, t'as pas besoin de, je pense, d'aller chercher plus dans l'évaluation est-ce que j'y arrive ou pas. C'est d'ailleurs l'un des trucs que j'aime beaucoup dans la méditation, c'est que t'as pas besoin d'évaluer. Tu vois, c'est l'un des rares moments où j'ai pas besoin de m'auto-évaluer ou d'évaluer. Ça fait plaisir. On ne peut pas arrêter cette interview sans parler de ta rencontre avec Marion, parce que
oui, la petite.
Vous êtes, alors déjà, elle est très connue, on se connaît, Marion, machin, très connue du public de Mademoiselle d'une manière générale. Vous avez l'air de faire un sacré duo. C'est vraiment ma meilleure question.
C'est vraiment ta meilleure question. C'est genre vraiment une formulation nulle. C'est la chose la plus nulle que tu aies dite. Non, trop pas.
Trop pas
c'est un... Non, c'est drôle. Non, mais parce que c'est vrai. En fait, Marion, je l'ai rencontrée bizarrement depuis peu de temps. Enfin, depuis aussi longtemps que je te connais. Parce que c'est elle qui nous a présenté au moment où on venait de se rencontrer. Donc ça fait un an et demi, je crois que je la connais, et j'ai l'impression que je l'ai connue toute ma vie. En fait, il y a des moments très... Enfin, je te dis, moi je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai très rarement...
Des connexions.
Des connexions aux gens. Et en fait, à un moment donné, c'est les mêmes gens. Tu croises des gens et c'est tes gens, en fait. C'est comme ça. Tu vois. Même quand je t'ai rencontré, ça m'a fait ça. Tu sais, il y a un truc très simple de... Tout est simple. Toute relation et toute conversation, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Marion et moi, on s'engueule tout le temps. On s'insulte, on s'engueule et tout. Mais c'est avec tellement d'amour que tout est simple, en fait. Et c'est trop beau d'avoir des relations comme ça. C'est vraiment très, très beau. Et au-delà de ça, Marion est vraiment, pour le coup, tu vois, cette synchronicité qu'il y a parfois quand l'univers s'aligne. Marion, elle est arrivée au moment où je me suis dit, bon, allez, je sors de ma coquille. Et en fait, bah, comme Diams m'avait mis le pied à l'étrier de la scène, elle m'a remis le pied à l'étrier de me montrer, faire entendre ma musique. Je lui ai fait écouter l'album sur le SoundCloud que je t'ai envoyé. Elle m'a dit « Ok, waouh !» Et elle m'a dit... C'est ça, elle m'a tellement inspirée dans sa manière de dire ce qu'elle avait à dire. j'étais tellement... En fait, tu vois, j'avais ce côté méfiant des réseaux sociaux. Mmh. Et elle m'a montré à quel point je me trompais, dans le sens où elle, elle en a fait son média. Donc en fait, elle dit ce qu'elle veut. Mmh. Et c'est une libération de ouf. Quand j'ai compris ça en la voyant faire, je me suis dit, mais c'est trop bien. Donc évidemment, maintenant, je poste 56 000 stories par jour. Mais il y a vraiment ce truc où elle m'a... Et au-delà de m'apporter même son soutien, rien que purement son soutien, tu vois, pour m'aider à grossir sur les réseaux, etc. Elle m'a tellement inspirée, là, dans toute cette phase de montrer ma musique, de la rendre visible. Elle réalise des clips pour moi, et toujours avec ce truc de Marion. C'est-à-dire que je lui dis « Oh, j'ai envie d'un petit pédalo. » Et elle me dit « Bah viens, je te construis le Titanic. Hein. » Bah, pourquoi pas, je te le construis pour demain, ça te va? Ok, super Marion. Et il y a vraiment ce truc de rien.
Elle, c'est marrant, elle a monté ton fameux pupitre que tu utilises
que j'utilise sur scène, exactement. Elle, qu'elle a monté de A à Z, qu'elle a construit. Non mais je ne comprends pas, elle fait des plans, des machins. Pareil, mon dernier clip, il se passe dans une étendue d'eau rose. Elle a fait toute la construction technique de la... Tu vois, il y a ce truc où, voilà, encore une fois, dans le truc de faire, elle me sort vachement les doigts du cul. Et elle est vraiment, elle est inspirante en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me, comment dire, quelque chose de très fort qui m'anime quand je la vois faire, quand je la vois exister au monde et délivrer les messages qu'elle a. C'est un putain de messager quoi.
Ouais, je suis assez d'accord.
On est d'accord, non? Bon, elle est un peu con hein, avec son petit chat obèse, mais.
Qu'il n'y a pas de queue.
Qu'il n'y a pas de queue en plus. Non, je l'adore. Je peux t'avouer quelque chose aujourd'hui?
Non, s'il te plaît.
Non, mais c'est horrible. En fait, je suis passée de l'autre côté de la barque, mais elle est super Boulette en fait.
Bah ok, mais alors j'ai jamais. Bon, Boulette qui est le chat.
Un jour, on fera un date que toi, moi et Boulette. Et je te jure, elle a un côté. C'est un fils de pute, mais en même temps. Non, on ne dit pas fils de pute.
Si vous n'avez pas la ref, Boulette, c'est donc le chat de Marion.
Le chat de Marion.
Marion Séclin. Et avec qui on a une relation un peu compliquée depuis plusieurs années, et parce que Boulette me déteste, et donc bah, moi, a priori, j'avais rien contre elle, mais j'ai fini par la détester en retour, parce que bon, moi, j'aime pas l'amour vache, quoi, je suis comme ça. Et bon, au départ, Irma était plutôt de mon côté à ne pas non plus aimer ce chat qui est un peu lunatique, en fait, hein, globalement.
En fait, elle a sa personnalité.
Voilà.
En disant, je parle comme Marion, ça y est.
Voilà.
C'est fini. Oh là là là.
Elle était rentrée
dans la tête. Elle est magnifique, Boulette. Moi, je l'adore. Mais tout ça pour dire que oui, c'est une rencontre très. Très importante là de ces dernières années et au-delà de ça une rencontre très importante de ma vie Marion et c'est cool, je trouve que quand on s'allie on fait des trucs bien, tu vois, j'aime beaucoup l'énergie qu'on met à faire des choses et je trouve que ça fait des trucs cool.
Tu m'as envoyé un petit SMS pour me dire en fait je préfère que plutôt que de parler d'autoproduction tu dises de moi que je suis une artiste entrepreneuse. Alors ouais. Tu m'as dit entrepreneur ou
Je disais entrepreneur, et après je me suis dit la langue française m'échappant un peu de fait de mes origines camerounaises. C'est toujours comme ça que je justifie, tu sais, quand je fais une faute de français, pour que les gens me jugent pas. Je dis non mais c'est bon, de toute façon je suis camerounaise. Et du coup tout d'un coup les gens ils font oui bon d'accord. C'est la mauvaise foi. Oh, que ça fait 20 ans que la meuf elle est là.
Tu parles mieux que moi.
Non mais oui évidemment. Comme tout Camerounais, parce qu'en fait, du coup, nous, ce qui est fou, c'est que du coup, dans les anciens pays, les pays francophones, en fait, on apprend un français très littéraire, tu vois. Et donc, ça arrive très souvent que quand tu vas dans des pays d'Afrique noire francophone, les gens qui te parlent dans la rue parlent un très très bon français. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand tu sais, t'as le vieux cliché de « Oh, il parle très bien français quand même hein. ». Non mais en fait, il parle mieux français que toi, je t'explique.
Je dis éperdument, d'accord.
Voilà.
De façon très...
Moi, j'utilise des mots comme ça.
Mais pourquoi donc artiste-entrepreneur ou entrepreneuse?
C'est un terme qui t'intrigue. Hein.
Mais oui, bien sûr.
Bah, en fait, c'est que je me retrouve plus... En fait, je me retrouve pas dans le terme autoproduction. Parce que pour moi, il y a une espèce de... C'est ce que je t'ai dit par texto. Il y a une espèce... Ça implique un peu une sorte d'autarcie, de truc où tu te fermes de l'industrie de la musique qui est complètement fausse. Et en fait, pour moi, le terme d'artiste-entrepreneur, il est mieux. Et surtout, il est plus actuel. Parce que, en fait, moi, ma démarche, elle a juste été de décider de choisir mes équipes. Tu vois? Et pas de me couper de l'industrie, mais de dire, moi, ma vision, je vais m'entourer avec un management, une équipe de promotion, une équipe marketing qui va m'aider à la mettre en place. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, pour moi, le plus bel exemple d'artiste-entrepreneur, c'est L'Homme Pâle, par exemple.
Okay.
Tu vois, c'est un mec qui a sa vision et qui va, avec son management, trouver pour chaque marché les équipes qu'il faut pour mettre en œuvre son truc, tu vois. Et ça coupe complètement avec, tu sais, on a la vision de l'artiste poète qui sait pas gérer sa vie et tout. Et pour moi, c'est tout l'inverse. En fait, c'est une force d'action un peu improbable. Et ça donne une liberté. Parce qu'en gros, dès que j'ai une idée, bah, elle est là. Elle passe pas par mille entonnoirs et...
Et pour autant, t'es indépendante.
Exactement. Mm-hmm. Exactement.
D'accord, je vois mieux.
Tu vois ? Donc pour moi, c'était pas... En fait, dans le terme auto-prod, il y a un truc coupé du monde qui me gêne, parce que c'est pas le cas.
Ok.
Alors que dans le terme artiste-entrepreneur, il y a évidemment l'aspect artistique et de la création, mais il y a le côté de dire... c'est moi qui gère mon business, mais c'est moi surtout qui m'entoure, et je choisis les gens dont je m'entoure, tu vois.
Merci Irma.
Merci Fabrice.
C'était super, on a tellement parlé, mais c'était trop bien.
Combien de temps on a parlé ?
1h20.
Oh mon Dieu.
Mais c'était génial, vraiment je ne couperai rien de tout ce que tu as raconté.
C'est vrai.
Ouais, vraiment. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram.
Tout à fait, maintenant que je suis de retour.
At Irma Songs. La meuf a arrêté de snobber les médias.
Attends, je suis de retour.
Et je mettrai aussi les liens vers ton compte Spotify.
Trop bien.
Et puis, on relaiera de toute façon, quoi qu'il arrive, la sortie de ton album. Qui, quoi qu'il arrive, sortira un jour. Parce que c'est comme ça. Merci beaucoup, Irma.
Merci, Fabrice. C'est trop bien. The sun rises black and white, silver blade shining the clouds. You drag yourself out of the night, tears gleam in your eyes. The raising cane knocks at your door, you got nowhere to run to while it invades your room and shakes your floor. You got nowhere to hide. Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me and leave the chaos behind? Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me and leave the chaos behind? A wasteland of dust and still shine and hell of shouts and wills. A concrete sky beneath your feet buried all your dreams. A paper king of white and green wears a crown made of your fears. And while you're lying on the floor, his empowered on a throne. Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me and leave the chaos behind? Don't you see that we're sinking? No, don't you wanna dive with me and leave the chaos behind? Voilà.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.